Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On va démarrer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin et notre marronnier qu'on adore, bien sûr, cette question. Faut-il supprimer les jours fériés liés aux fêtes religieuses? En tout cas, c'est la proposition d'Éric Piolle. Vous savez, c'est le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble et il souhaite remplacer, lui, ces jours fériés religieux par d'autres dates, comme celle, par exemple, de l'abolition de l'esclavage. Pour Marie-Josée, auditrice RMC, cette proposition va à l'encontre des racines chrétiennes de la France.
Ben, moi, je suis pas trop d'accord, puisque on est quand même un pays chrétien, on va dire, et on est en train de tout nous supprimer. Enfin, on commence à tout nous supprimer.
Vous avez l'impression que c'est une attaque contre les racines chrétiennes de la France.
Oui, tout à fait. Moi, je le ressens comme ça.
C'est ça pour vous.
Moi, je suis attachée à mes. Je suis pas pratiquante, moi, par contre.
Ouais.
Mais je vais pas à l'église. Je vais pas. Mais j'ai mes racines et ce fameux Noël. Pour moi, c'est quelque chose que, quand on voit les yeux des enfants qui sont émerveillés de mon temps, on va dire.
Non, mais toujours aujourd'hui, hein, Marie-Josée.
Noël, voilà. Et on enlève, on commence à nous enlever tous ces moments de joie.
Valran, est-ce qu'il faut supprimer les jours fériés liés aux fêtes religieuses et les remplacer par d'autres?
Non, sans être comme exactement dans l'extrême. Moi, je suis de culture à la base chrétienne, même si je suis pas du tout pratiquant, même en vrai assez peu croyant. Non, je sais pas, c'est plus une question d'habitude. Je pense que beaucoup de Français, même qui sont pas de confession catholique ou chrétienne, sont habitués à ces fêtes-là. Je trouve que c'est très bien de les garder plus dans ce sens-là. Après, la question de se poser d'en remplacer peut-être un ou deux marginalement, en disant que un est peut-être moins nécessaire dans la culture chrétienne et l'autre peut être intéressant dans la culture commune française sur des dates historiques où Éric Piolle parlait de l'abolition de l'esclavage, pourquoi pas? Je sais pas, moi j'ai toujours l'impression que on essaye de calquer chacun son agenda politique en fait et de prendre des jours culturels pour faire avancer ses idées plus qu'autre chose en fait.
Vous êtes d'accord avec ça, vous Lumière Lapré, faut changer ces jours, ce jour férié?
Bah, je pense que c'est un sujet qui est important et c'est important d'ouvrir le débat parce que en effet c'est pas anodin dans un pays laïque qui est la France qui se réclame de la laïcité en permanence, conserver un calendrier qui est basé sur des fêtes religieuses. Je pense que si on part du principe qu'on conserve un calendrier avec les fêtes religieuses, alors se pose la question de l'ouvrir à d'autres religions. En l'occurrence, des fêtes importantes juives et musulmanes, qui sont les autres religions qui sont largement pratiquées en France. A priori, vous allez deviner. Moi, je trouverais ça très beau d'avoir un jour qui célèbre en effet l'abolition de l'esclavage, comme on a des jours qui célèbrent des victoires militaires déjà. Et je pense que c'est important parce que pourquoi? C'est comme les noms de rue. On avait déjà eu ce débat.
Oui.
Un jour férié, c'est symbolique en fait. Et donc ça montre aussi ce que collectivement on veut célébrer. Moi, je pense
On enlève Noël.
Non,
et on remplace par le 27
tout.
Avril 1848 la date
tout,
de l'abolition
pas
de l'esclavage.
Du tout. Et c'est là qu'en fait, il y a aussi un vrai... tu vois, par exemple, ce matin, je vais m'acheter un sandwich pour la pause. Et donc, je discute avec le gars qui me dit « C'est quoi aujourd'hui? Pourquoi c'est férié ?» Enfin, franchement, je savais pas. Moi, je suis pas croyante. Non, et je ne savais pas ce que c'était la Pentecôte. Tout le monde sait ce que c'est Noël. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un enjeu à voir quelles sont les fêtes qui sont devenues...
C'est-à-dire que c'est un jour de solidarité, tu bosses gratuitement. Je ne sais pas si on te l'avait dit.
Oui, ben ça aussi, ça je savais. Mais donc tu vois, il y a des fêtes qui sont rentrées dans l'imaginaire collectif laïque, Noël en l'occurrence, et il y en a d'autres qui restent des fêtes chrétiennes. Donc peut-être que ces fêtes qui sont purement chrétiennes peuvent être remplacées par des fêtes qui soient laïques et collectives.
Donc l'Assomption, la Pentecôte, par exemple. Éric Olégas, vous qui êtes très attaché aux traditions françaises, ce sont des traditions chrétiennes, mais enfin ça fait partie aussi des racines françaises. On les enlève ces jours fériés, et puis on change. Bon, on peut prendre le 12 juillet aussi.
J'ai l'autre jour on avait un débat sur l'Aïd. Il y a peut-être effectivement des territoires où il y a une majorité de musulmans, on pourrait faire des fêtes musulmanes.
Bah tu vas pas faire des jours fériés par territoire.
Non, alors, mais je sais que c'est une beaucoup plus intelligente. Pourquoi les remplacer? On les supprime, c'est tout.
Ben c'est ça.
Voilà.
Ah non.
C'est pas nos racines, ça sert à rien.
Attends.
Parce que moi, je veux pas qu'on me la remplace par autre chose. Attention,
Pourquoi
on va discuter.
Pas du tout.
Je suis pas d'accord. Moi, je veux la fête du hareng en ce moment-là aussi.
D'accord.
Est-ce que peut-être moins important que l'abolition de l'esclavage?
Oui, quand même.
Tout le monde va arriver avec sa fête. Alors, on me dirait, on va mettre le 18 juin. La Pentecôte, c'est une fête formidable. c'est...
Oui, j'ai regardé du coup.
Et tout le monde parle la même langue. Toute l'humanité se comprend.
Oui, c'est vrai.
C'est un symbole de fraternité formidable. Elle est bonne pour tout le monde, voyez.
Oui, mais c'est vrai que même des gens de culture chrétienne ne savent pas ce que c'est que la Pentecôte.
Mais personne ne sait plus rien.
Pour le coup, on peut ouvrir le débat, mais est-ce qu'on pourrait pas remplacer, je prends cet exemple un peu populaire et marrant, mais est-ce qu'on pourrait pas prendre une victoire de la Coupe du Monde de la France, par exemple?
Ce que j'ai dit, le 12 juillet.
Je déteste le football.
Mais après, excusez-moi, mais le 12 juillet, ça nous arrange pas avec le 14. Vous voyez, c'est un peu trop
proche. Bien sûr.
C'est comme le 27 avril avec le 1er mai.
Il faut quand même bien choisir ses jours. Il y a des jours fériés laïques. Le 1er mai, c'est un jour férié laïque.
J'aime cette.
Moi, je mettrais un jour en février, un jour en mars. Il faudrait trouver.
Reprenons le calendrier révolutionnaire. Avec, il y avait 30 mois par semaine. Puis ensuite, il y avait des fêtes de la nature et autres. C'était formidable. Et en plus, l'année commençait vraiment le vrai jour de l'an. C'est le 21 mars, c'est-à-dire c'est le début du printemps. C'était le calendrier ancien. Et on suit la nature, c'est un calendrier écologique. Et puis Noël, machin, il est jamais né le 25 décembre, hein, le Christ. On sait très bien quand il est né, voilà. Donc tout ça, abolissons toutes ces fêtes, refaisons un calendrier en fonction de d'avis la nature, de voilà. Et
dispatchons-les aussi au cours de l'année.
Essayons de mieux dispatcher les mois. Avec quelques jours en plus pour Estelle Denis.
Mais que ce soit les vendredis alors.
Je suis pas d'accord, c'est pas le mois de mai où il fait bon, il y a beaucoup de trucs fériés, c'est quand même sympa, parce qu'il fait encore profiter.
Un calendrier paresseux.
Mais tout le monde n'a pas de RTT.
Je suis pour le calendrier des paresseux. On va travailler quand on veut, c'est tout.
Mais ce que parce que c'est quand même une croyance qu'on a en France qui est très ancrée. On n'est pas le pays avec le plus de jours fériés du tout. Il y a de très nombreux pays qui ont beaucoup plus de jours fériés que nous, notamment des pays religieux qui célèbrent. Oui, on est dans la moyenne haute, mais on est aussi la sixième puissance mondiale.
Et en plus, si tu célèbres par la fête, tu vas tout de suite pampant, tu prends la stonade. Alors je peux te dire.
Oui, c'est vrai. Alors que nous, c'est des vrais jours fériés où tu peux faire autre chose.
Très bien. Les grandes gueules ce matin sur RMC. Samedi, la Palme d'Or à Cannes a été remportée par Justine Triet pour son film Anatomie d'une chute, mais l'actrice a profité de son discours pour évoquer son mécontentement sur la réforme des retraites. Alors comprenez-vous son coup de gueule pour Bruno Pomard? Le monde de la culture est aujourd'hui un monde d'enfants surgâtés et ça donne une image de la France déplorable.
C'est quand même affolant de voir ce qu'on a entendu ce week-end. J'ai repris une phrase qui était intéressante sur un journal, c'est le naufrage d'une société d'enfants gâtés. C'est exactement ça le monde de la culture actuellement. C'est-à-dire vous avez une caste de gens hyper protégés, super financés, puisqu'ils prennent près de 11 milliards. Le ministère de la Culture distribue 11 milliards pour produire des centaines de films tout au long de l'année.
Pas du tout.
Si, c'est 11 milliards. Mais si, tu peux dire ce que tu veux, c'est la vérité. Ouais. Moi, je trouve que c'est lamentable et totalement dépassé. Ça n'a rien à voir. C'est un discours politique alors qu'on est sur un mouvement de culture. Le Festival de Cannes. C'est regardé dans le monde entier. Non, mais je vais faire un parallèle avec l'Eurovision.
Croyais que c'était Lazara.
Ça file une image encore de la France détestable. Et j'en reviens évidemment à l'Eurovision avec Lazara qui nous a sorti le doigt d'honneur. Voilà un petit peu l'image de la France qu'on donne.
Perico, les gars, elle a raison, Justine Triet, finalement, de faire ce discours. Voilà, elle avait envie de le faire. Elle est Palme d'Or à Cannes et elle dit je vais pousser mon coup de gueule anti-gouvernement à ce moment-là.
Elle a le droit d'avoir ses opinions, elle a le droit de les exprimer à n'importe quel moment, mais ne transformons pas ces grands instants culturels, que ce soit les Oscars ou d'autres. On en profite pour en faire une tribune personnelle pour aller raconter son histoire.
Oui. C'est mieux que de remercier papa-maman, non ?
Je ne sais pas, parce que demain, il y a peut-être d'autres personnes beaucoup moins bien intentionnées qui profiteront, puisque les autres le font. Moi, je vais aller raconter mon petit problème personnel, mon problème politique, mon problème confessionnel. Et je vais donner...
C'est vrai que ça l'appelle me d'or
Non, tout peut arriver. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de transformer des instants qui sont culturels. Les artistes qui se disent engagés, comme ils sont très frustrés de ils ont pas vécu en 40, ils ont pas pu se battre contre les impôts. Ils se drapent de la vertu, de la résistance contre le capitalisme, contre le racisme. Et donc, comme ils ont des destins nuls et qui sont à peu près talentueux, Greta Garbo. Alors donc, elle va exister parce qu'elle aurait rien dit. Elle aurait rien dit. J'aurais même pas su qu'elle avait la Palme d'Or. Grâce à sa connerie, elle a réussi à faire savoir qu'elle avait la Palme d'Or. Elle a un très bon conseiller marketing. Elle est très forte en com.
Ou alors elle est juste profondément engagée, tout simplement.
Chérie, mais tu sais, avant d'autres, il y avait des choses plus graves pendant la guerre d'Algérie et tout. Personne ne s'est jamais permis, aux heures les plus tragiques de l'histoire, de détourner le festival de Cannes pour faire sa petite
crosse.
Non, mais tout le pays était en révolution.
Oui, mais c'est par ses engagements politiques. C'est par ses engagements politiques que Godard, avec d'autres réalisateurs, a permis d'annuler.
D'accord, mais c'était un autre contexte que la réforme des retraites. Son petit prurite nerveux,
c'est un mépris, Perico.
Valran Mouliberto.
Moi, je suis d'accord que son coup de gueule sur la marchandisation du cinéma est déplacé parce qu'elle a ses intérêts personnels dedans. Donc, je trouve ça pour le coup un peu plus dépassé.
Surtout que le gouvernement, l'État finance ses films.
Déjà, en plus, et en plus l'État finance les films. En revanche, sur la réforme des retraites, je trouve ça, pour le coup, sain et même courageux, pour être très franc, de prendre position sur quelque chose qui, pour elle, la concerne pas forcément directement. Et je trouve ça assez courageux. Et je pense que quand Harrison Ford le fait sur le climat, quand DiCaprio le fait sur le climat, quand Vincent Lindon le fait sur le Covid, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'applaudir. Et pas parce que.
Excusez-moi, le climat, à ce que je cherche, ça concerne la planète, le Covid concernait la planète. Là, c'est un truc franco-français. La Palme d'Or, c'est un festival international.
C'est pas la marchandisation de la culture.
Ça, c'est mon point. Ça, pour le coup, je comprends. Mais ça reste, je trouve, assez courageux de le faire. Et si elle le pense, et que c'est aussi le rôle des artistes de parler. Après, c'est vrai qu'elle a une position facile.
Il y a aucun courage. Elle prend aucun risque.
Elle a une position facile pour le faire. En revanche, ça peut être aussi intéressant de, elle, donner la parole dans des prochains films ou des documentaires à des gens dont elle défend les combats.
Mais vous savez ce qui serait courageux, c'est qu'elle refuse. Elle refuse l'argent du CNC. Elle refuse les aides de l'État.
Ça, c'est génial.
Alors là, franchement, ça aurait de la gueule. Ce serait super.
Elle ne peut pas faire de films sans les aides du CNC. Alors moi, je veux bien reprendre le truc de base. Si vous avez fait un petit tour sur Twitter depuis cet épisode, vous vous êtes rendu compte que, notamment les membres du gouvernement, ont l'impression que ce sont eux qui détiennent l'argent des Français. En disant, en gros, quelle ingratitude avec tout l'argent que nous vous donnons. Alors je rappelle que le gouvernement ne donne pas d'argent. C'est notre argent. Le gouvernement est le gérant temporaire de l'argent des Français. Donc, ça n'est pas parce que le gouvernement, à un moment, pendant 5 ans, organise notre argent pour la culture, qu'il doit, comme ça, pouvoir s'attacher à la loyauté des artistes. Et donc, faire en sorte que la totalité des artistes, parce qu'on leur a fait un chèque qui leur est dû, parce que c'est comme ça que le ministère de la Culture est organisé en France depuis avant Macron, et ça sera le cas après.
Attendez,
Macron.
Mais ça leur est dû, ça leur est
non,
dû.
Ça leur est pas dû.
Mais ça leur est pas dû. C'est-à-dire que c'est quand même organisé dans la politique française. Et donc, ça ne date pas de Macron.
On peut aussi leur donner moins de budget.
Oui, on peut, mais ça ne date pas.
Je m'étonne qu'ils soient financés.
Ça ne date pas de Macron. Donc ça n'est pas.
Mais alors c'est pas un dû non plus.
Ça n'est pas. Alors peut-être que ça n'est pas un dû. Ce n'est pas forcément le bon terme. Or, par contre, ce que je veux dire, c'était pas parce que pendant 5 ans c'est le gouvernement qui va faire l'échec, juste parce qu'en fait ils sont là, que du coup on leur doit totale allégeance.
Mais non, mais dans ces cas-là, attends, tu critiques un truc. Tu critiques le gouvernement, tu critiques leur politique. Mais bravo, mais fais ce que tu veux. Oui. Mais dans ces cas-là, tu ne prends pas l'argent du gouvernement.
Mais ça n'est pas l'argent du gouvernement. Ça n'est pas l'argent du gouvernement. C'est notre argent. Moi, je suis heureuse de payer des impôts. Je suis heureuse de payer des impôts pour pouvoir financer la culture en France.
Bah moi, je préférais les payer pour l'hôpital.
Non, mais ça c'est. Alors moi, si je peux me permettre, c'est quand même une mise en concurrence très très dangereuse.
C'est ce que t'as fait tout à l'heure.
Avec le CICE,
sur les violences
faites
aux femmes.
Tu veux qu'on parle des montants 5 minutes? Parce que moi, je peux te parler du montant du CICE. Et en l'occurrence, ça n'est pas parce que
CICE, c'est pas le débat.
C'est toi qui m'en reparles. Donc je te dis,
les montants qui sont alloués aujourd'hui par le gouvernement, en tout cas par l'État, au cinéma français, tant mieux. Et si on n'est pas le Palme d'Or, bravo Cocorico. Il n'y a pas tant de réalisateurs français que ça qui ont été Palme d'Or, donc formidable. Mais je pense qu'il y a quand même quelque part une hypocrisie du fait de à la fois critiquer le gouvernement et de prendre l'argent en même temps. Ça me gêne.
Et ben, alors Blanche Gardin,
par exemple, sur Amazon, elle te dit, elle dénonce Amazon, mais elle te dit, je comprends pas le chèque d'Amazon.
Mais ça n'est pas du tout la même chose. Ah bon. Aujourd'hui, on vit dans un système où la culture en France est sponsorisée par notre argent, en tant que contribuable, en tant que citoyen français, pour s'assurer que notre pays rayonne et que tout le monde ait accès à la fois à faire des films, puis à aller voir des films. Donc en fait, ça n'a aucun rapport avec Amazon qui veut payer une actrice en particulier pour se faire de la thune. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas possible en France de faire de la culture sans l'argent public.
Oui.
Parce que la culture, comme l'hôpital et comme l'éducation, n'a pas toujours vocation à être rentable. Et donc, en fait, il faut qu'on arrête de toujours vouloir voir un retour sur investissement financier avec l'argent de nos impôts.
C'est ce qu'on demande à tout le monde, en fait.
C'est un problème, et c'est pour ça que l'hôpital et l'éducation sont dans une décrépitude absolue, parce qu'on les met en concurrence les uns avec les autres, et parce qu'on part du principe...
Il faudrait que le cinéma soit... On demande rien.
Non, c'est pas vrai, d'ailleurs. Elle dit que de plus en plus, on demande, et c'est ça qu'elle dénonce. Elle dénonce la marchandisation qui deviendra forcément, en gros, une sorte d'homogénéisation, où on ne finance que des films dont on est sûr qu'ils vont faire les entrées.
Je t'assure, quand on voit le nombre d'entrées de certains films français, tu te dis que franchement, on est peut-être autre chose à financer.
Oui, mais qui, du coup, alors quoi? Est-ce qu'on se dit aussi quand on emmène des gamins à l'école en disant, bon, de toute manière, ils parlaient pas bien français, bon, on avait autre chose à financer? Quand on finance parce qu'ils allaient mourir, on a autre chose à faire. Qui décide ce qui est rentable? Mais c'est pas qui décide où est-ce qu'on met l'argent.
Plus de rentabilité, c'est plus de budget pour les
clubs. Juste de pas être hypocrite. Voilà, c'est
mais
c'est
ça n'est pas hypocrite que de dire j'ai bénéficié de ce système. Et d'ailleurs, ce qu'elle dit, c'est grâce à l'exception culturelle française que j'ai pu.
Et pour en bénéficier d'autres
aller,
en plus.
Que j'ai pu m'élever à ce niveau. Et aujourd'hui, je suis triste, je déplore que les gens qui viennent après moi n'auront pas cette chance.